la première. Les banques, il y a eu déjà plusieurs formes de dette. Il y a eu des garanties, il y a eu des prêts, il y a eu aussi des aides directes. Mais sur les, ce qu'il faut voir, c'est le mécanisme qui a été mis en œuvre. C'est qu'on a permis aux banques de se refinancer auprès de la Banque Centrale Européenne à taux minime, pour nous refacturer, à nous, entreprises, à un taux supérieur. Là, il y a une aide directe, enfin, indirecte, je veux dire, mais réelle, des pouvoirs publics. L'aide nette, c'est le différentiel entre les deux taux, par exemple. Alors, ensuite, et puis les garanties, ce sont des sommes qui sont potentiellement mobilisées pour faire face à un défaut, etc. Sans parler que derrière, il y a aussi des garanties sur l'exposition des banques, comment dire, aux dettes grecques, espagnoles, portugaises, y compris même peut-être françaises, etc. Donc, il y a bien de l'argent public qui est venu en soutien, direct ou indirect, des banques. Et effectivement, il y a des prêts, mais des prêts, y compris à condition favorable, de sorte qu'au final, l'État, il a globalement aussi perdu par rapport à un créancier ordinaire, ce qu'un créancier ordinaire peut facturer. Ensuite, sur la fusion CGIR. Donc, je campe le paysage rapidement. La CG est un prélèvement sur les revenus proportionnels, avec des aménagements de taux. Les revenus de patrimoine sont à 8,2%. Les retraités sont moins imposés que les actifs. Enfin, quand on prend une catégorie, mettons les actifs, c'est 7,5 pour tout le monde. Il n'y a pas de niche fiscale, il n'y a pas de quotient familial, et tout ça explique, et comme c'est calculé sur 97% du revenu brut, maintenant 98% avec le plan Rigueur, tout ça rapporte beaucoup, c'est 85 milliards d'euros par an. Et ça va à la branche famille et surtout maladie. Ça a eu une histoire, je vous raconte, enfin, depuis Rocard, c'était un taux unique, puis progressivement il était relevé, puis ça s'est substitué aux cotisations d'assurance maladie. Et cette CSG est en partie pour les deux tiers déductible de l'impôt sur le revenu. Alors, pour le coup, c'est un peu compliqué. Mais paradoxalement, le fait qu'elle ne soit pas totalement déductible permet de faire en sorte que la partie non déductible soit imposée à l'impôt sur le revenu progressif et donc confère un petit caractère progressif rétroactivement à la CSG. Voilà pour la CSG. L'impôt sur le revenu, c'est 50 milliards d'euros, donc 35 milliards de moins que la CSG. Un quotient familial et des niches fiscales. Ajoutons à ça que la CG est prélevée immédiatement sur votre salaire au moment où vous touchez votre salaire, et l'impôt sur le revenu, vous faites des acomptes par lesquels vous êtes imposé l'année d'après, hein, vous allez payer votre impôt sur le revenu, l'année d'après, la perception des revenus, selon un barème qui plus est progressif. Donc l'impôt sur le revenu va au budget de l'État. A priori, il n'y a rien de commun entre les deux. Cela dit, c'est vrai que les deux sont une forme d'imposition des revenus, et le total des deux représente 7,3% de notre produit intérieur brut. Et je rappelle au passage que dans tous les autres pays, la moyenne, c'est 9, entre 9 et 9,5%. Donc, le projet Piketty, j'ai travaillé dessus également, parce que, bon, effectivement, si on fait un impôt unifié, il y a un intérêt certain pour le fiscaliste de dire que ça serait intéressant d'avoir une assiette qui soit plus juste. Et puis, plutôt que d'avoir une partie du revenu. On prend le revenu brut, on a les cotisations sociales, la CSG, il nous reste ça pour faire la progressivité. Si on grappille un peu sur la CSG, on peut avoir peut-être une progressivité un peu rénovée. Mais ça se heurte à deux questions que j'ai identifiées là tout à l'heure, qui sont comment ça va se construire en termes de progressivité, mais ensuite, comment on va sécuriser les ressources sociales. Parce que dans les opposants, dans à peu près tous les syndicats, vous allez recevoir, si vous faites cette proposition-là, un certain nombre de critiques de ceux qui disent, oh là là, mais vous allez étatiser la Sécu, c'est-à-dire qu'au lieu que les ressources de la CSG aillent à la Sécu, elles vont aller au budget de l'État. Or, si elles vont au budget de l'État, surtout dans le contexte actuel, il y a fort à parier qu'elles soient progressivement diminuées, il faut plus de visibilité, pardon, et que finalement ça mette en péril les ressources sociales. Une crainte objective et fondée, hein, surtout dans le contexte actuel. Mais si on regarde bien, moi j'ai plus de problème à revoir. Comme dit l'autre, je suis ni pour ni contre, mais au contraire, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a des schémas de CSG, de fusion CSG qui sont intéressants, d'autres qui sont totalement à proscrire. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas un schéma de fusion CSG, vous en avez plusieurs. Vous avez ceux qui disent qu'une flat tax, 10%, 12% pour tout le monde. Alors là, à proscrire totalement. Vous avez ceux qui ménagent entre flat tax et progressivité, façon Christian Saint-Étienne, qui dit qu'il faudrait un impôt sur le revenu rénové, assis sur la CSG, donc une fusion, à trois tranches. Il fait 0, 15, 25. C'est pas un impôt sur le revenu très progressif. Ça peut faire du rentable, mais pas très progressif. Et puis vous avez Piketty qui dit, eh bien, on fait un barème qui va jusqu'à 60%, donc très progressif, très rentable. Lui, il propose la solution suivante, il dit, bon, ben, on bascule l'impôt sur le revenu, il est prélevé l'année où moment où vous percevez vos revenus, on supprime le quotient familial et les niches fiscales, et on donne un crédit d'impôt par enfant, par personne à charge, pour remplacer le quotient familial et tenir compte quand même. On appelle l'équité horizontale, c'est-à-dire que ben, ceux qui ont des enfants ont plus de coûts, donc c'est normal qu'ils payent un peu moins un revenu égal que ceux qui n'en ont pas. Donc, et la difficulté de ça, c'est que, il me semble que Thomas Piketty, sur la Sécu, il balaye un peu vite. Quoi. Il dit, oui, on peut affecter les recettes à la Sécu, mais bon, à terme, il faudra que l'État s'occupe de tout ça. Je le fais schématiquement, mais c'est un peu ce qu'il y a dans son bouquin. Moi, j'ai une autre lecture. Je pense que je regrette que le mouvement social n'ait pas assez travaillé sur une alternative à la fusion CGIR, sur la base d'un rapprochement des deux prélèvements, et qui pourrait se construire autour de deux options. Elles ne sont pas spécialement novatrices ni compliquées, mais bon. Ce serait quoi? Ce serait de partir du principe qu'il faut se fixer deux objectifs. Un, meilleure progressivité, mais deux, sécuriser les ressources sociales. Moi, je suis pour une fiscalisation des ressources sociales au sens on impose toutes les richesses, mais je ne suis pas pour une étatisation, je suis pour qu'il y ait deux budgets séparés. Parce que c'est lisible, parce que c'est le fruit aussi de l'histoire, hein, ça compte, l'histoire, en plus, j'appartiens à un syndicat qui ne gère pas les clés de la Sécu, donc je n'ai aucun intérêt dans l'affaire. Enfin, mon syndicat non plus, je précise le passage, parce que parfois il y a un petit peu ça, mais vous, les syndicats, vous voulez gérer la Sécu pour avoir vos permanents, machin. Bon. Moi, je suis vierge de tout ça, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est de voir comment on peut avoir un impôt plus progressif, et objectivement, l'assiette de la CSG permet d'avoir une assiette plus large. Ça englobe aussi les revenus du capital. La CSG impose plus lourdement les revenus du capital que l'impôt sur le revenu, parce que l'impôt sur le revenu, il y a des niches, etc. Donc moi, ça m'intéresse techniquement et politiquement de travailler là-dessus. Donc du coup, l'idée d'une alternative, ce serait la chose suivante. Ce serait de rapprocher les deux assiettes, mais d'avoir un prélèvement à deux faces. C'est con comme la lune, en fait. Hein. C'est de dire, effectivement, allons, reprenons ce qu'il y a de bon chez Piketty, et puis changeons ce qu'il y a de pas bon. C'est-à-dire que, travaillant sur l'assiette, c'est-à-dire sur les revenus, parce qu'on peut avoir des ressources en augmentation et plus justes, plus mieux réparties, y compris quand on a même avoir des petites niches fiscales, hein, pratiquement où elles sont plafonnées, on peut avoir l'exonération des intérêts du livret A, on peut avoir des exonérations à caractère social, hein, voilà, ou la réduction pour cotisation syndicale, pour dons aux œuvres, etc. Mais vous voyez, on peut se permettre d'avoir des petites incitations. Surtout, il faut qu'elle soit évaluée et contrôlée. Hein. Il ne faut pas qu'elle soit trop importante pour ne pas dénaturer l'impôt. Mais on pourra avoir ça, et au lieu d'avoir un prélèvement unique, ben, vous faites une contribution sociale, une contribution fiscale. Et vous sauvegardez deux canaux de financement. Et au final, vous avez l'impression d'avoir un impôt. Par exemple, la première tranche, elle serait à 5%, de 0, voilà, entre deux seuils de revenus. Ben, en réalité, il y aurait 2,5% pour la Sécu, 2,5% pour l'État. Donc, moi, j'ai travaillé là-dessus avec l'Imwenlock, que j'ai connu par attaque, par ailleurs de parti socialiste, mais j'étais d'abord connu en tant qu'attaque, on a fait un truc tous les deux, en disant, ben voilà, on pourrait avoir une loi organique qui sépare ces deux prélèvements, et avec la Fondation Copernic, on a travaillé sur un pôle différent, mais qui répond à la même logique, de rapprocher les assiettes et d'avoir deux prélèvements distincts. Mais le vrai débat là-dessus, bon, il y a ça, mais en disant ça, ça suppose d'être, comment dire, d'accord pour bazarder le quotient familial. C'est un vrai débat, et c'est pas un débat fiscal, ça, c'est un débat sur la politique familiale. Mais je suis pour, comme Thomas Piketty, qu'on prenne en compte les personnes à charge, mais que ce soit les mêmes montants pour tout le monde, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec le conseil familial. Et si on fait ça, on peut respecter les principes d'équité verticale, la progressivité horizontale, en faisant compte de certaines situations. Et c'est peut-être aussi ce type de prélèvement qui, en termes de correction des inégalités de ressources, voilà, pourrait nous permettre d'avancer. Alors, avant d'arriver à ça, il y a des formules intermédiaires. On peut très bien rénover l'impôt sur le revenu et accroître légèrement la progressivité de la CSG. Tout ça est parfaitement envisageable. À partir du moment où on dit on va dégager des ressources et que ça soit plus progressif d'un côté, et on sécurise la protection sociale. C'est pour ça que j'ai du mal à dire je suis pour ou je suis contre, parce que la fusion CGIR, vous avez 10 projets de fusion CGIR. Il y en a un ou deux que je trouve très intéressant là-dedans. Mais faute de ça, je préfère encore avoir une CSG peut-être un peu amélioré et un impôt sur le revenu réformé à part. Parce que sinon, à ce moment-là, si on se lance, on dit, bah oui, c'est très bien la fusion CGIR, par principe, je trouve ça dommage de le dire, parce que par principe, ça veut dire qu'on est prêt à finalement passer outre un certain nombre de questions fondamentales. Voilà, tout simplement.